Voix feutrées, masquées et gantées, Radio Couleur Chartreuse s'aventure sur le terrain. Une édition spéciale de 11h à 12h pour vous accompagner pendant cette période de confinement. Nos interviews sont réalisées par téléphone. Prendre rendez-vous au 06 45 00 36 45. Vous pouvez aussi enregistrer vos messages personnels sur votre téléphone portable et nous envoyer votre fichier audio à contact@radio-couleur-chartreuse.org. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonjour à tous, chartreusins, chartreusines, et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes jeudi 11 juin, il est 11h, et c'est l'heure de votre matinale, les convives du 9. La vôtre, oui, car du lundi au jeudi de 11h à midi, nous vous donnons la parole.
Bonjour à tous.
Parmi nous, pour co-animer, pardon, je suis avec Élise, et nous sommes accompagnés de Lucas, qui est à la technique.
Au programme ce matin dans les convives du 9, une première partie dédiée à l'information suivie de l'interview de notre convive du jour, Sylvie Raspail, qui est graphologue, graphothérapeute et bien plus encore. Nous verrons cela en milieu d'émission. Pour finir en beauté, un conseil culture du jour et le conte de Nathalie Thomas, évidemment.
Pour rappel, cette matinale est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à nous envoyer vos annonces, que vous soyez commerçant, indépendant ou entrepreneur. Si vous souhaitez nous parler de l'adaptation de votre activité au contexte actuel et de même pour vos autres élus du territoire afin de passer des informations, vous êtes tous les bienvenus pour partager avec les Chartreusins les informations et messages personnels que vous souhaitez diffuser, mais aussi vos idées neuves pour un autre demain. Pour ça, une adresse, contact@radio-couleur-chartreuse.org et un numéro de téléphone, le 06 45 00 36 45.
À présent, place à l'actu, c'est l'heure du flash. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce dimanche à 20h. On ne sait rien du contenu de son allocution, si ce n'est qu'il parlera pour changer de déconfinement. Depuis mardi, l'établissement français du sang a lancé l'opération Prenez le relais. Pendant un mois, chaque citoyen est invité à être un ambassadeur du don du sang, avec pour ralliement le slogan « Un mois pour tout donner ». Les femmes ayant dépassé l'âge limite de 43 ans de prise en charge pour une procréation médicalement assistée en France pourront être remboursées en cas d'arrêt de leur parcours pendant le confinement. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, en commission des affaires sociales au Sénat. Et une bonne nouvelle pour finir, le Dalai Lama se met à la musique. Il doit sortir son premier album le 6 juillet, le jour même où il fêtera ses 85 ans. Un premier single, Compassion, vient d'être dévoilé. À quoi cela ressemble? Un mélange de musique, de mantras et d'enseignements bouddhistes.
Oui, et d'ailleurs, on a écouté et c'est plutôt surprenant. Voilà, donc nous commençons avec un mea culpa. Donc la semaine dernière, nous donnions la parole à une personne qui ne souhaitait pas être identifiée pour parler d'une manifestation du personnel de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont. Donc les faits exacts sont les suivants. Ce n'est pas une manifestation, mais une mobilisation, qui a eu lieu jeudi dernier devant l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont. Donc pour demander une réponse simple, pourquoi l'hôpital n'est pas sur la liste de ceux qui bénéficient de la prime gouvernementale? Donc rien à voir avec le bruit de couloir que nous avons relayé, nous en sommes sincèrement désolés, voilà. Jean-Christophe Briche, qui est délégué à l'UNSA, rétablit la vérité.
C'était pas une manifestation, c'était plutôt une mobilisation. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a un décret qui est sorti, et donc ce décret, dessus, est listé les établissements qui peuvent prétendre à la prime. Et nous, on s'est aperçu que l'établissement de Saint-Laurent-du-Pont n'était pas répertorié sur ce décret. C'est là tout le sujet de notre interrogation. Pour le coup, on a saisi notre directeur, bien sûr, on lui a demandé le pourquoi de la chose. Et à l'issue, lui, il nous a expliqué qu'il avait fait le nécessaire, comme il se doit, pour pouvoir prétendre à cette prime. Et puis donc, derrière tout ça, on se pose la question de savoir qui n'a pas fait peut-être les bonnes choses en temps et en heure. À ce jour, on n'a pas l'explication du pourquoi on n'a pas eu la chance d'être répertorié sur ce décret. Donc on a saisi le Premier ministre, le ministre de la Santé, l'ARS de Lyon, l'ARS de Grenoble, par courrier recommandé. Les médecins se sont joints à nous pour un courrier aussi, le directeur et nous-mêmes, donc partenaires sociaux. Et à l'issue, on attend les retombées. Là, a priori, il y a eu un décret d'application qui est sorti, une circulaire en fait, qui explique un petit peu plus les modalités d'attribution de cette prime. parce qu'en fait, c'est très très difficile de pouvoir se positionner sur l'attribution d'une prime, tout en sachant qu'il y a des gens qui ont été absents.
Le décret établit des critères très précis d'attribution de la prime. Donc si vous êtes absent pendant la période de Covid, entre 0 et 15 jours, vous avez la prime pleine. Entre 15 et 30 jours, c'est 50%. Et au-dessus de 30 jours d'arrêt, 0%. Donc le directeur est aujourd'hui bien à même de distribuer cette prime, comme il se doit.
Ceci étant, on a reçu à l'hôpital de Saint-Laurent une certaine somme qui était nettement insuffisante pour pouvoir distribuer tout ça à l'ensemble du personnel, comme le décret le décrit. Lui, il a fait remonter l'information à sa hiérarchie et on espère avoir des retombées qui rétablissent la situation et que la promesse qui a été dite soit tenue, tout simplement.
Toutes nos excuses une fois encore. À ce jour, la direction de l'hôpital et l'UNSA demandent la reconnaissance du CH sur le décret, sachant qu'ils ont géré 16 cas Covid, ce qui, compte tenu de la capacité d'accueil du service, est plutôt conséquent. Un rapport intitulé « Big Corpo, encadrer la pub et l'influence des multinationales », un impératif écologique et démocratique, a donc été rendu public hier. Donc c'est le fruit du travail de 3 organismes fédérés autour du programme « Système publicitaire et influence des multinationales » qui s'appelle le SPIM. Donc un rapport qui, comme vous l'aurez deviné, parle de publicité, Élise.
Alors, pour résumer ce rapport poussé de 200 pages, les associations montrent comment les multinationales s'en servent pour pousser à la surconsommation, blanchir leur image et faire pression sur les médias avant de donner des pistes de solutions.
Donc la publicité cherche à nous séduire, mais jusqu'ici, rien de nouveau, non ?
Effectivement, tout le monde sait que la publicité est extrêmement influente. 31 milliards d'euros seraient dépensés annuellement dans la publicité, la communication commerciale et le marketing promotionnel. Pour les auteurs du rapport, ces dépenses suscitent la surconsommation, c'est-à-dire la consommation de produits et de services dont l'acheteur n'a pas réellement besoin. Ainsi, comme le dit Renaud Fossard, responsable du programme, ceux qui orientent réellement l'économie, ce sont les industriels.
Et sur les quelques 3 millions d'entreprises en France, moins de 1% ont accès au marché publicitaire, ce qui est vraiment extrêmement peu. Ces 1% en profitent pour verdir leur image en flirtant avec la limite de la publicité mensongère.
La sphère médiatique n'y échappe pas. La publicité s'insère de manière plus ou moins visible dans les logiques éditoriales des médias qui en dépendent, écrivent les auteurs. Jusqu'à, pour les annonceurs les plus puissants, museler la presse sur des sujets sensibles. En France, par exemple, en novembre 2017, LVMH avait retiré 600 000 euros de publicité au journal Le Monde suite à la publication sur les Paradise Papers.
Oh, quel accent ! Et quelles sont les solutions, du coup ?
Les auteurs proposent d'interdire les publicités intrusives, agressives et polluantes, comme les publicités rétro-éclairées, les écrans animés ou les publicités sur les monuments historiques, et de créer des espaces sanctuarisés, sans publicité, afin de garantir la liberté de réception aux citoyens, c'est-à-dire le droit de recevoir ou de ne pas recevoir les messages publicitaires.
Donc pour les curieux, le rapport de SPIM est disponible sur Internet et vous pouvez retrouver un article plutôt bien résumé sur le site de reporter.fr.
Qu'est-ce qui dure environ 60 minutes et permet de sauver 3 vies ? Le don du sang, on en parlait tout à l'heure, est une pratique indispensable qui doit être régulière car non, le sang ne se garde pas. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour et depuis le déconfinement, les donneurs se font plus rares. L'expérience n'est pourtant pas traumatisante. Écoutez Cécile Arzilous, directrice adjointe de la communication de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle nous raconte son premier don.
Alors moi, la première fois, je n'ai pas pu donner parce que j'avais une tension un petit peu trop basse. Donc j'ai fait tout le parcours, on va dire, du don jusqu'au niveau du médecin. Donc je tiens à dire qu'il ne faut pas se décourager. C'est pas parce que la première fois, on n'a pas pu, pour X ou Y raison. Le plus important, c'est d'avoir poussé la porte de l'EFS parce que je me souviens d'avoir extrêmement bien été accueillie, surtout. Et puis j'étais étudiante à l'époque, donc j'avais encore pas vraiment intégré l'EFS, mais je me souviens qu'ils étaient venus dans ma faculté et j'avais trouvé ça vraiment très bien que l'EFS puisse se déplacer dans les endroits où se trouvent les personnes. Ça, c'était très bien passé. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Et puis, c'est vrai que le fait de l'avoir fait entre amis étudiants, ça nous avait un petit peu boosté et rassuré. Et je pense que pour une première fois, ça avait été très bien de le faire dans ce cadre-là.
Si vous avez 18 ans ou plus, une heure devant vous, une bonne santé et pesez plus de 50 kilos, prenez rendez-vous. Un don permet de sauver 3 vies.
Voilà, c'est vraiment important. Et ce jeudi après-midi, la communauté de communes de Grand Chambéry, donc c'est quasiment nos voisins, rencontrent donc les maires des espaces sensibles protégés des Bauges afin d'évoquer la cohabitation qui est de plus en plus difficile entre les marcheurs du dimanche et les habitants et paysans, n'est-ce pas Élise ?
Oui, et mardi matin, nous interrogions, enfin tu interrogeais plus exactement Madeleine, Xavier Pénin à ce sujet, il travaille à l'ONF, il nous rappelle les règles de base.
Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont raisonnables, restent sur les sentiers balisés, pour se promener en famille, hein, ce qui est normal. Hein. On est, la Chartreuse, c'est quand même un massif qui est très près des grandes agglomérations, donc il y a énormément de monde. Donc après, les animaux, ils ont aussi une forte capacité d'adaptation, heureusement. Mmh. Donc après, voilà, il faut qu'on essaye chacun à mettre un petit peu du sien pour préserver la tranquillité au maximum de la faune, parce que souvent, on les voit pas, hein, mais on peut les déranger sans forcément les observer. Donc il y a des périodes de quiétude, notamment à cette période au printemps, où c'est la période des mises bas. Donc c'est là où il faut être très prudent, notamment avec les chiens. Mmh. Et donc il y a une obligation de les tenir en laisse, hein, du 15 avril au 30 juin. Parce que même un chien qui pour nous est notre chien de compagnie, bah, il a un bon nez et il suffit qu'il aille renifler ou lécher un petit chevrillard qui est couché, hein, et sa mère risquerait de l'abandonner.
D'accord, ouais. Mmh.
Donc voilà, il faut rester prudent, il faut rester sur les chemins, il faut tenir son chien en laisse. Si on trouve un petit chevrillard ou un petit fan de cerf, on ne le touche pas. Mmh. Il n'est pas abandonné, sa mère est partie parce qu'elle nous a entendu arriver. Elle va revenir le récupérer et le fait de le toucher va mettre notre odeur dessus. Elle risque de l'abandonner. Donc voilà, mm-hmm. Il faut le laisser et
d'accord.
Sa mère reviendra.
Vous faites des maraudes un peu dans sur les sentiers pour croiser des gens et leur expliquer ça ?
Bah là, notamment à l'occasion du déconfinement, on est beaucoup sortis, hein, pour faire nos missions. Une de nos missions, donc c'est les missions de surveillance et de police. Hein. Bon, là, on était plutôt dans la médiation, la sensibilisation, mais je pense que c'était nécessaire. Mm. Parce que les gens, après 2 mois de confinement, sont sortis. Les animaux, eux, après 2 mois de quiétude, ont vu beaucoup de monde arriver d'un coup. Et voilà, donc on a effectivement fait passer des messages. Voilà, il faut qu'on reste raisonnable et qu'on puisse partager la nature tous ensemble le mieux possible.
C'est un grand dilemme, ça, partager la nature et la protéger d'autre part. Parce que le Charmençon a été colonisé juste après le déconfinement. Il y a eu des bivouacs à n'en plus finir. Mmh. Et les gens étaient réceptifs. Comment ils ont réagi
Globalement, on a affaire à des gens, oui, qui sont réceptifs. Ils n'ont pas forcément une grande connaissance de l'environnement, mais ils ont quand même un respect, on va dire, ouais. Au moins. Donc oui, nous, on a tous les messages qu'on a fait passer ont été entendus, ont été bien appréciés, et on n'a pas eu de problème particulier. Mm-hmm. Voilà, sur les zones que l'on a surveillées, on est allé sur la Dent de Crawl, on est allé sur Belfond, sur le Charmençon. Enfin, on a fait un petit peu des... Mmh. Voilà, des tournées sur l'ensemble des massifs où il y a beaucoup de monde. Bon, voilà, on n'a pas vu énormément d'infractions. Mmh. On a vu des comportements dans la grande généralité qui étaient, on va dire, raisonnables. Mais après, il y avait du monde.
Ouais,
et
c'est ça,
donc
ça,
forcément, voilà, ça crée un dérangement, surtout après 2 mois sans personne.
Des sons de cloche différents en fonction des sites. Ces comportements ont été exacerbés par le déconfinement, même s'il ne faut pas généraliser. Le tout est de réussir à s'écouter.
Et la transition est toute trouvée. Nous allons faire une petite pause avec un titre de l'excellent Scylla sur un piano du tout aussi excellent Sofiane Pamart. Et le titre, c'est « Écoutez-moi ».
Ah, bien sûr, cette mélodie est belle. Le piano est fort, le piano est riche, le pianiste est mortel. Elle est convaincue qu'elle m'aime, que je vais lui apporter le monde. Elle lit sur mes lèvres des mots que je ne dis pas, passionné d'onde. Ah, monsieur connaît bien le front. Oui, il gère une cyber armée. Pourquoi avoir les mains sales quand on peut faire la guerre depuis un clavier? Cette nuit la ville a sommeil, mais elle rêve trop fort. Toutes ces vaines promesses, ces manières de vivre ne peuvent plaire qu'au mort. Je sens ce bruit m'assommer. Je vois tous ces gens rendre l'âme. Je tente de leur parler. Ils secouent la tête, mais ne m'entendent pas. Ils ne m'entendent pas. Pff, comment tu veux qu'ils m'entendent de toute façon? Y'a trop de bruit. Écoute. Ils sont trop occupés à grignoter jalousement les quelques miettes qu'on leur a permis de manger. Écoute, regardez tous s'essouffler à courir après le vent, après leur soi-disant rêve, mais la coupe qu'ils veulent remplir est percée d'avance. Hé, hey, écoutez-moi. Tu dis que t'écoutes, mais t'écoutes pas. Il m'écoute pas. Je dois faire quoi pour que tu m'écoutes? Hein? Je dois me faire sauter? Boum! Voilà. Monsieur est mieux disposé maintenant. Tu vas pouvoir accuser les autres. Espèce de trou du cul. Écoutez-moi. Moi aussi j'ai peur. Je suis seul ici. Y'a qui? Combien de temps encore on va jouer au brave chien-chien, hein? À donner la patte au bon maître et à rapporter le bâton à des costards vides. Hmm? Qu'est-ce qu'ils connaissent de nous? T'en vois un qui veut notre bien, toi? Un seul? Hé, hey, je vous parle! C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux! Combien de guerres il va encore falloir, putain de merde? Combien? J'en peux plus de consommer, moi. Je vais pourrir de l'intérieur, ça va me ressortir par tous les pores. Écoutez-moi, vous dormez, réveillez-vous. Combien de temps encore à subir, à apprendre à être normal, à vivre assis, à travailler, à dormir les yeux ouverts comme un bon fonctionnaire, et puis à rentrer, laisser les écrans penser à sa place, se faire promener par son chien, et puis aller dormir ses 8 heures par nuit, évidemment, parce qu'il faut apprendre à être en forme le lendemain pour profiter de ce bon vieux jour sans fin. À vivre comme ça, on peut faire que prendre 7 ans tous les 12 mois, comme un chien. Je suis déjà grand-père dans les yeux de mon fils. Écoutez-moi. Non. Je refuse. Je veux autre chose, moi. Ce monde est merveilleux. Je sais pas, je veux traverser les océans, les déserts, courir après des mirages, vivre un rêve. Une histoire d'amour impossible. Être un aviateur, un inventeur, un grand artiste. Révolutionner l'art, remettre la plume à la mode, nourrir le cœur des gens. Que ma vie soit utile à quelque chose. Trouver un sens, rencontrer Dieu, quitte à en devenir fou. Mais comme dirait l'autre, je peux pas être en bonne santé dans cette société malade. Je peux pas. Écoutez-moi.
C'était Écoutez-moi de Sylla et Sofiane Pamard. Vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes le 11 juin et à 11h, c'est l'heure d'accueillir notre convive du 9. Donc ce matin, nous accueillons Sylvie Raspail. Elle a tellement de casquettes que je vais la laisser se présenter. Bonjour Sylvie, vous êtes là?
Bonjour Madeleine, oui, je suis là.
Oh, on vous entendait très peu, mais maintenant ça va mieux. Sylvie, qui êtes-vous, hein? Que faites-vous? Qui êtes-vous?
Comment allez-vous?
Ouais, ma vie, mon œuvre. Alors, bon, je m'appelle Sylvie Raspail, j'ai une longue histoire que je ne vais pas vous raconter, mais aujourd'hui, je suis psychopraticienne et je fais de la graphothérapie, c'est l'accompagnement des difficultés de l'écriture pour les enfants, hein, de l'enfant à l'adulte, mais aussi de l'accompagnement pour les ados, les jeunes adultes, voire les adultes un peu plus âgés, de l'accompagnement au projet d'orientation, au projet de changement professionnel aussi.
D'accord.
Voilà, sur Voiron.
Et alors, sans rentrer du coup dans votre longue histoire, pourquoi vous avez choisi d'exercer la graphothérapie? C'est quelque chose qui n'est pas très répandu.
Mm-hmm. Alors en fait, j'ai un long passé dans les ressources humaines. Hein. J'ai une formation de psychologue du travail. Et j'ai fait beaucoup de recrutement et je me suis formée très tôt à la graphologie, qui est une activité qui me fascinait, me passionnait depuis toute petite, puisque j'adore l'écriture depuis ma petite enfance. Et j'ai découvert la graphologie un petit peu par hasard. Et je trouvais que c'était intéressant de comprendre comment, à partir de l'écriture, on pouvait mieux comprendre la personnalité et comment on pouvait aider les gens par rapport à ça. je m'en suis servi dans mon passé de recruteur. Et puis, j'ai eu un petit, on va dire, un petit bug de santé qui fait que je me suis posé pas mal de questions. Et j'avais une jeune fille, ma fille en l'occurrence, qui avait des petits soucis d'écriture. Et ça m'a permis de chercher ce que c'était la graphothérapie. Et lorsque ce bug de santé est arrivé, je me suis dit, je vais me reconvertir pour vivre une vie plus en accord avec qui je suis. Donc, je suis passée par des étapes un petit peu difficiles que je connais bien et c'est pour ça que je peux mieux accompagner dans ce domaine-là. Et je suis retournée à l'école à une cinquantaine d'années pour me former à la graphothérapie.
C'est courageux.
Voilà.
Et juste pour revenir...
J'exerce depuis 5 ans.
Voilà. D'accord. Donc, la graphologie ?
Thérapie ?
La graphothérapie, graphologie.
Alors, la graphologie, c'est l'étude,
l'étude de l'écriture.
Par l'écriture.
D'accord.
Et la graphothérapie, c'est la remédiation des difficultés d'écriture. Tout simplement.
D'accord. Okay. Et donc sur votre site internet, vous avez cité une phrase de Françoise Dolto, c'est « N'oublions pas que ce qui fait l'intelligence de l'homme, c'est pour beaucoup celle de ses mains. » Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Tout simplement, Françoise Dolto, elle était très inspirée. Et puis, c'est un peu en lien avec les pratiques Montessori, tout ça. Mmh. L'homme, s'il est homme, c'est que quelque part, il a réussi à faire la pince pouce index. Et que ça lui a libéré, beaucoup, beaucoup de champs de créativité, notamment. Ça a permis de structurer, construire son cerveau. Ça a permis à l'homme, effectivement, d'apprendre mieux, de développer des compétences. Et aujourd'hui, on a un petit peu oublié que apprendre, ça passe par la manipulation, que les enfants ils découvrent par leurs mains, en fait, beaucoup, beaucoup de choses dans leur petite enfance. Et que, il ne faut pas oublier les mains. Et dans l'écriture, c'est fondamental. Et ce qu'on rencontre souvent, c'est des difficultés, effectivement, de préhension, de motricité fine. Et tout ça, ça a un impact extrêmement important sur les apprentissages des enfants qui peuvent se retrouver très mal à l'aise, à l'école.
D'accord. Et est-ce que vous remarquez que le numérique peut mettre les enfants en difficulté, dans le sens où ils écrivent beaucoup moins, ils se servent beaucoup moins d'un stylo ?
Alors, oui, donc il y a plusieurs choses. Je pense qu'il ne faut pas être trop rétro. Hein. C'est important, on s'en sert tous, on en a besoin, et c'est important et ça fait aussi évoluer notre cerveau. Mais il se trouve que écrire, ça ne fait pas utiliser les mêmes zones dans le cerveau que taper sur un écran, enfin sur un clavier. Mm-hmm. Hein. Et donc, du coup, écrire va permettre de mieux apprendre à lire. Et ces deux activités sont assez indissociables. Écrire et lire, ce sont des activités liées au langage écrit, hein, au langage. Et donc, les enfants, effectivement, qui n'apprennent pas ce geste moteur, intègrent moins, automatisent moins le langage écrit et la lecture, du coup, parce qu'ils n'ont pas aussi intégré cette partie motrice qu'est l'écriture.
D'accord, donc c'est vraiment complémentaire, oui.
Complètement. Donc, l'ordinateur, c'est une solution, qui est intéressante pour les enfants qui ont une dysgraphie sévère ou qui sont dyspraxiques, qui ont vraiment un trouble important. Ça va leur permettre de libérer leur cerveau, de ce geste qui n'arrive pas à s'automatiser. Mais moi, je considère qu'il est quand même important de savoir écrire et de savoir gérer ce geste-là. Je vais en prendre pour exemple. Je suis un jeune homme trisomique. Écrire pour lui, c'est vraiment important de pouvoir écrire, signer, remplir les petits documents qu'il doit remplir. On travaille là-dessus parce qu'il y a encore des gestes qui sont importants aujourd'hui, des actes importants qui sont liés à l'écriture. Et puis, c'est lié à l'estime de soi.
Oui,
et ça, c'est
aussi
important, c'est un de mes dadas. L'estime de soi, c'est fondamental pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que si on n'a pas l'estime de soi, c'est très difficile d'avoir de l'énergie, de projet, justement.
Oui, oui, oui. Voilà. Et justement, dans le travail que vous faites avec les jeunes en orientation scolaire, du coup, la différence entre ce que vous faites avec les jeunes et ce qui est proposé dans les collèges et lycées par des conseillères d'orientation plus classiques, je dirais.
Alors, ça, on parle de l'accompagnement au projet d'orientation.
Oui,
on referme la part graphothérapie.
Oui, quoi que vous pouvez faire de la graphothérapie dans l'orientation ou
oui,
vous séparez.
Oui, je mixe ça. J'ai des jeunes gens qui viennent me voir pour l'orientation, puis en fait, je découvre avec stupeur que ils ont un gros souci d'écriture, donc on va les travailler parce que c'est pas de la rééducation, hein. On est dans la remédiation et on va vraiment être dans un accompagnement thérapeutique, hein, au niveau de la graphothérapie. Donc revenons à nos trucs
pour l'orientation.
Les jeunes qui viennent me voir, en général, ils sont dans une situation de blocage. Ils n'arrivent pas à se projeter, en fait, hein, ni dans un métier, ni dans une formation, ni même dans leur travail scolaire. Hein. La plupart du temps, c'est des enfants qui sont quand même en difficulté importante et ils n'arrivent pas à faire leurs vœux d'orientation. Ils ont aussi l'impression qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Souvent, ils se considèrent très mal. Ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ils ont tellement entendu petits qu'ils étaient nuls que ils ont intégré cette démarche-là. Donc tout ce mal-être va entraver leur énergie en fait et la projection qu'ils ont dans l'avenir. Ils ont des difficultés relationnelles avec leurs parents. Ils ont des difficultés relationnelles avec leurs profs. Les échanges sont très houleux. Enfin, ça, on a parfois des enfants, des jeunes très désinvestis ou qui peuvent être en échec scolaire. En tout cas, on souffrance. Et tant qu'il y a doute, il n'y a pas d'énergie qui peut circuler et qui peut leur permettre d'avancer. Donc moi, quand je les rencontre souvent, ils ont besoin de ça et l'objectif, c'est de faire circuler leur énergie motrice qui est vraiment paralysée par toutes ces incertitudes. Donc, dans le cursus, on va dire, de l'éducation nationale et de l'accompagnement par les conseillers d'orientation, ce travail-là, il ne va pas pouvoir se faire. Il y a énormément d'enfants à suivre. Ils ou elles vont pouvoir identifier qu'il y a un souci, vont apporter des solutions rapides, pratiques, etc. Et ils font un métier qui n'est pas du tout évident parce qu'ils ont très peu de temps. Ils ou elles ont très peu de temps. Mais je dirais, sur des problématiques un petit peu plus importantes, souvent il faut un accompagnant parce que ça va démystifier les choses aussi et puis on va désamorcer des petites bombes qui sont là et qui font que l'enfant n'avance plus et que c'est difficile à l'école, c'est difficile au lycée ou au collège et c'est difficile avec les parents à la maison.
Comment vous avez été approchée à la base pour travailler avec les enfants, les jeunes adultes, les collégiens, comment ça a commencé cette rencontre entre vous?
C'est sympa comme question. Alors, c'était il y a fort, fort longtemps sur un marché, quand je faisais mes études de graphologie. C'est rigolo comme une histoire. Mais mes parents donc allaient à un marché régulièrement et ont rencontré des gens. Et leur fils voulait être coiffeur. Et les parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils trouvaient que le coiffeur, c'était pas sexy en fait. c'était il y a longtemps, je suis pas toute jeune quand même. Et... en fait, je leur ai proposé de faire l'analyse graphologique de leur jeune garçon. Et ils ont accepté le projet, le jeune homme aussi. Et donc, moi, dans son analyse, j'ai découvert qu'il avait plein de talents, qu'il avait une motivation très forte, qu'il avait plein de possibilités, plein de potentiel. Et je leur ai expliqué ça, et à lui aussi. Et puis finalement, ils ont cédé. Et le garçon, il est devenu coiffeur. Il a ouvert un salon, puis il a créé une chaîne. Et c'est devenu un chef d'entreprise. Il avait vraiment beaucoup de potentiel.
Ah oui,
donc, ça a été mon premier contact, dans ce domaine-là. Oui. Et j'ai porté toujours avec moi, tout au long de ma vie professionnelle de RH, cette idée qu'il fallait accompagner les gens dans le développement de leur potentiel. Oui. Et qu'être, des RH ou responsable des ressources humaines, c'est vraiment accompagner le développement, c'est pas sanctionner. Moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc quand j'ai décidé de créer le cabinet, de faire mes études de graphothérapie et d'ouvrir ce cabinet, j'ai voulu aussi accompagner des jeunes des jeunes ados, des jeunes adultes qui avaient des difficultés par rapport à leur projet. Aussi parce que moi, j'ai eu mes enfants tard, mais mes copines ont eu des ados plus tôt que moi. Et je les ai souvent aidés, justement, à mieux se connaître, à détecter leurs points de force, et puis à libérer leurs projets pour construire vraiment la vie qu'ils avaient envie de construire.
D'accord. En vous écoutant, j'ai l'impression que ce qui manque vraiment aux jeunes, c'est de rassembler un peu... parce que quand on leur demande leur projet d'orientation, en fait, on parle très scolairement de matière, de quel domaine les intéresse. Mmh. Et en fait, c'est très restreint par rapport à tout ce qui entre en compte, en tout cas dans ce que vous faites avec eux.
Et un autre truc aussi, j'ai l'impression qu'il manque la confiance en soi beaucoup.
Oui,
tout à fait. Donc, Alors en fait, on met la charrue devant les bœufs, quelque part. Moi, j'ai fait de l'accompagnement aussi d'adultes hein, quand j'étais à l'APEC, à l'Agence pour l'emploi des cadres, et j'ai découvert beaucoup de choses aussi dans cette expérience, à savoir qu'avant de mettre en œuvre des actions, bah, il faut savoir ce qu'on a vraiment envie de faire et puis sur quoi on s'appuie. Donc, il faut imaginer un petit peu une pyramide, et la base de la pyramide, bah, c'est qui on est. C'est connaître, donc moi je travaille beaucoup là-dessus, faire connaître les qualités, les talents, c'est-à-dire ce pourquoi on a, pas un don, hein, le talent c'est plus des possibilités, du potentiel, hein. Des goûts, les choses qui vous attirent, hein, des valeurs, parce que les valeurs, le système de valeurs, c'est très important pour tout le monde, et souvent vous les jeunes, je me permets de vous assimiler, mais on vous fait pas réfléchir à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vers quoi, sur quoi vous appuyez? C'est quoi vos principes de vie? Et ça, c'est important parce que dans la vie professionnelle, souvent, c'est, si on n'est pas en phase, ben, on dysfonctionne, en fait. Oui, et comme je dis, on rame à l'envers. Et oui, c'est ramer pour aller de l'avant. Et puis, il y a les rêves. Il y a les rêves. Et pour moi, les rêves, les désirs et les rêves d'enfants, c'est souvent les rêves qui permettent de réaliser sa vie plus tard. Et souvent, ils sont étouffés, soit par l'école, soit par les injonctions, soit par les parents qui ont peur, qui disent « Ah ben non, on gagne pas assez d'argent. » Et puis, tu pourrais très bien faire des études bien plus longues, faire un bac scientifique, ça t'ouvrira toutes les portes. Il y a plein de schémas, d'idées reçues, etc. Mm-hmm. Et puis du coup, bah, finalement, petit à petit, eh ben, ces jeunes-là, ils s'étouffent. Et en s'étouffant, en étouffant cette petite lumière, cette force hein, qui est en eux, eh ben, ils vont aller dans des trajets très construits. Et du coup, ils ne vont pas sortir éventuellement du lot. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une... J'ai peut-être trop loin, mais on est dans une société où ça fait longtemps qu'on doit s'adapter. Mais on est encore plus, on a encore plus besoin de s'adapter. Et je pense que ben, les jeunes, là, c'est vous qui allez pouvoir porter tous les changements dont on a besoin pour continuer d'exister et de progresser positivement. Et je crois que c'est important que tous ces jeunes puissent faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et par ailleurs, les métiers, aujourd'hui, ne sont plus tout tracés. Les parcours, ils sont parfois tortueux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Et ce n'est pas parce qu'on a plusieurs activités ou plusieurs casquettes qu'on n'est pas bon, qu'on est au contraire, c'est enrichissant.
D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que vous notez qu'il y a, vers quel genre de métier vous avez réussi à orienter certains jeunes? Est-ce qu'il y a des choses surprenantes
ou des métiers qui ressortent souvent? Peut-être, je pense aux métiers manuels ou d'artisanat en règle générale.
Alors, moi, je n'oriente pas. Déjà, je corrige le truc. C'est là la différence, peut-être, en fait, c'est la réponse à votre question tout à l'heure.
Oui.
C'est qu'en fait, je vais catalyser ce qui est dans les jeunes, au fond d'eux-mêmes, hein, pour qu'ils puissent exprimer, en fait, leurs vrais désirs, exprimer leurs projets. Ils vont construire leurs projets. Là, je vais les aider à le construire et on va s'appuyer sur les conseils d'orientation, sur l'ONICEP, sur plein de choses. Enfin, bref, il y a Pôle emploi avec qui et l'APEC avec qui j'ai beaucoup travaillé où il y a beaucoup de choses. Et derrière, ils vont initier des projets. Et là, on va chercher après les types de formations qui peuvent exister. Alors, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui a eu un parcours un petit peu atypique et qui a travaillé dans l'humanitaire. Hein. Oui. Donc, elle a trouvé une école extraordinaire. Moi, je connaissais même pas. Donc, on fait des grosses découvertes hein, ensemble. J'ai quand même pas mal de créatifs et d'artistes parce que c'est souvent ceux qui sont les moins écoutés, donc des musiciens. Musiciennes, des chanteurs. et puis, il y a des gens qui font des parcours beaucoup plus standards, je dirais, par rapport au cursus scolaire, mais qui vont l'exercer avec peut-être plus de conscience et plus de passion aussi, plus de sens de la réalité. Parce que, de la réalité de leur vrai projet de vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui va les guider. Et ils pourront plus facilement, après, s'adapter, faire évoluer leur parcours, changer. Donc, il y en a beaucoup qui reviennent me voir en me disant « Sylvie, là, j'ai des doutes. Et là, je me dis que peut-être ça serait le moment de faire autrement ou je ne suis pas tout à fait sûre. » Et voilà. Donc, c'est un lieu, je pense que c'est un lieu d'écoute, mon cabinet aussi, pour tricoter, hein, moi j'aime bien cette notion-là, pour tricoter son projet avec toutes les mailles qu'on a à assembler pour pouvoir aller vers ce qui nous intéresse au fur et à mesure, parce que rien n'est écrit d'avance. en fait. Tout est question de rencontre. Et ces jeunes, justement, il m'arrive de les faire se rencontrer, au moins téléphoniquement ou par mail. Donc, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai un jeune homme musicien qui a fait une école un peu particulière, qui a pu exposer et présenter cette école à un jeune homme qui est en première et qui, voilà, qui ouais, est freiné, en fait. Voilà. Et maintenant, il sait qu'il va aller vers ça. Donc, du coup, il va pouvoir faire sa terminale comme il faut, beaucoup plus motivé. Et ouais, il sait qu'il y a une porte de sortie, quelque part, de l'espèce de piège dans lequel les gens, enfin, les jeunes, souvent, ont l'impression d'être.
D'accord. Ouais. Et donc, si jamais, là, quelqu'un qui nous écoute aimerait prendre contact avec vous pour son enfant ou pour lui-même, du coup, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas que les jeunes. Hein, on peut aussi changer d'orientation au cours de notre vie, 40, 60, plus. Du coup, comment on fait?
Alors, il y a le site internet, Plus Barc-en-Ciel, hein, puisque c'est le nom de l'activité. Peut-être vous le mettrez en ligne, je ne sais pas
vous pouvez retrouver sur le podcast.
Voilà, donc on peut m'envoyer un mail pour m'exposer un petit peu la problématique et puis on se rappelle, ou me téléphoner. Hein, donc, est-ce que je dis mon numéro ou vous allez
vous pouvez le dire, ouais, sinon on le donnera en plus dans le podcast.
Voilà, donc c'est le 06-282-602-46. L'idée au départ, en fait, parce que je ne vous ai pas expliqué le process, je ne sais pas si on a encore... c'est qu'en fait, très souvent, c'est les parents qui m'appellent en premier, hein, parce que eux qui entendent les émissions ou qui ont su par une copine, enfin, tout ça, c'est du réseau, hein, la plupart du temps. Hein. Donc, ils me téléphonent, ils m'expliquent la problématique, je les écoute, et puis je leur dis, si vous voulez avancer, il faut que ce soit votre enfant qui me contacte. Donc, je reçois un petit SMS en général, c'est moi qui rappelle au moment où je suis dispo. On fait connaissance au téléphone sans rentrer trop dans les détails et je leur explique ce que je fais et ce qu'ils vont devoir faire pour moi, pour démarrer. Donc en fait, la démarche, elle est assez simple. Dans un premier temps, je leur demande de m'écrire une lettre manuscrite. Je vais partir, c'est là que c'est un petit peu la spécificité, je vais partir d'une analyse graphologique. Donc ils vont m'écrire une lettre comme ils savent le faire à ce moment-là, où ils vont parler d'eux, hein, tout simplement. J'ai juste besoin de savoir s'ils sont droitiers, gauchers, l'âge qu'ils ont, si sont garçons ou filles. Hein. Mm-hmm. Et moi, je vais faire l'analyse graphologique à l'aveugle. Comme je dis, c'est comme This is the voice. Hein. Et je rédige cette analyse graphologique. Après, je reçois de la part des parents un petit document que je leur ai demandé de compléter, que j'appelle l'anamnèse, c'est en fait l'histoire de l'enfant, pour bien recenser toute l'évolution, ce qui s'est passé, parce que je suis assez curieuse de savoir ce qui s'est passé dans la petite enfance, y compris à la naissance. Enfin voilà, c'est vraiment un parcours de compréhension. Et ensuite, on se rencontre, on fait un entretien avec le jeune et le ou les parents, hein, ça dépend. Souvent, j'ai que les mamans, mais il peut y avoir les papas, c'est très bien. Et là, on fait connaissance, on fait un entretien avec bonheur et demi. Et puis, je vais expliquer et restituer les résultats de l'analyse graphologique. Et là, on regarde si on est bien en phase, pas en phase, qu'est-ce qu'il faut ajuster. Bon, l'avantage de l'analyse graphologique, c'est assez pertinent. Hein. Moi, même moi, ça m'étonne à chaque fois. Et derrière, ça va permettre de créer aussi un lien et puis de se dire, moi, je travaille sur le positif. Hein, donc, je vais aller chercher ce qui est positif chez le jeune et ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Parce que je trouve que ça ne sert à rien d'aller gaspiller son énergie à vouloir faire évoluer quelque chose qui ne fonctionne pas, alors qu'on a des choses qui fonctionnent et qu'en les faisant fonctionner, on résout plein d'autres problèmes. Donc, ça, c'est vraiment la démarche de fond. Hein, et puis ensuite, eh ben, on se rencontre en tête à tête régulièrement, tous les 15 jours pendant une heure. Et j'ai un petit livret d'accompagnement. Hein, c'est un peu comme un bilan de compétences pour les adultes, mais il est adapté aux jeunes. Et on progresse, et ils ont des petites choses à faire entre les séances, hein, des petits travaux intercession qui vont les faire réfléchir, hein, qui vont les faire vraiment se poser des questions. Et c'est toute cette dynamique-là, cette activation finalement de leur mental, de façon positive, qui va leur permettre de se mettre en mode projet petit à petit. Et quand ils ont fini, on fait un petit poster, hein, je leur fais réaliser un poster de tout ce qu'ils ont découvert sur eux. Et ensuite, ils peuvent présenter leur projet à leurs parents. En général, ils le font seuls. S'il y a besoin, on fait une séance au cabinet, parce que parfois, il y a des choses un petit peu tendues. Hein, et ils se mettent en démarche d'action que je peux suivre après en fonction de leurs besoins.
C'est vraiment un suivi extrêmement complet.
Oui, c'est poussé et tout. Oui, c'est intense.
On vous remercie beaucoup, Sylvie. Et on va vous... Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre dédicace musicale, du coup, car c'est vous qui choisissez la musique qui va suivre?
Alors, donc la musique qui va suivre, elle a été composée par Anaïs, ma nièce, qui est une chanteuse. Elle a un don depuis toute petite. Hein. Elle est compositrice aussi. Elle travaille avec un ami. Ils font un travail extraordinaire. Ça s'appelle Amiral avec deux A. Et j'aime beaucoup cette chanson. Je la trouve très très belle, hein, celle qui va venir. C'est plein de, d'émotions, de sensibilité, hein, voilà. Et je crois que ça correspond très très bien à tous les enfants, tous les jeunes que je rencontre dans mon cabinet. Et je crois que ça correspond aussi à la petite citation que j'ai mise sur ma porte, qui est « Faire ce que l'on aime, c'est la liberté. Aimer ce que l'on fait, c'est le bonheur. » Voilà. Et je crois que, je le dédie à Anaïs et son ami d'Amiral et à ce beau projet.
Très bien, Bécoute. Merci beaucoup. Au revoir, Sylvie. Oui.
Je vous remercie infiniment. Belle journée à tout le monde.
Merci, au revoir. Aussi. Au revoir.
Merci. See their face and golden wrist, they don't learn to count to blessings by beauty's here in every dream, and you won't forget where are you from.
Vous écoutiez Amiral et vous êtes bien sur Radio Couleur Chartreuse. Donc c'était la dédicace musicale de notre convive du jour, Sylvie Raspail. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, et bien nous allons passer directement au Conseil Culture, Élise.
Et oui, sans transition, c'est le moment du Conseil Culture. À chaque matinale, nous donnons la parole à des personnes engagées pour la culture. Elles nous racontent leur engagement et nous donnent leur Conseil Culture du jour.
Alors, c'est pas bien correct parce que je me présente avant la dame, mais je suis le président de l'association Pic-Livre à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui fonctionne avec la bibliothèque de Saint-Pierre.
Alors, Marc-Christine Perroux, je suis adhérente à Pic-Livre, plusieurs associations sur Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, voilà.
Alors, Pic-Livre, en gros, c'est une association de Saint-Pierre qui travaille avec la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on donne des coups de main à la bibliothécaire dans le fonctionnement de la bibliothèque, qu'on lui aide à choisir des livres quand elle renouvelle. À côté de ça, on organise aussi des spectacles sur Saint-Pierre, en corrélation avec la MC2 de Grenoble, ou des spectacles qu'on choisit nous-mêmes. On fait aussi certaines fonds, je dis certaines parce que c'est surtout des dames cette asso. Je suis le président, mais je dois être le seul homme de l'asso. Donc il y a aussi des lectures à l'école pour les petits. La dernière nouveauté, ça c'est Christine qui vous en parlera, c'est l'attrape-mot. Donc là, je lui laisse la parole, elle saura mieux dire que moi.
L'attrape-mot, c'est à l'initiative de quelques filles qui sont déjà un peu dans le domaine de l'écriture. Donc c'est un atelier d'écriture. Donc on a lancé ça l'année dernière, au mois d'avril, si je me souviens bien, avec pour but de permettre à des gens d'écrire, et absolument sans aucun jugement, et une écriture libre, quoi. Voilà. Que tout le monde se sente capable d'écrire. C'est pas un atelier sélectif où on apprend à faire un roman. Non, c'est un atelier qui a lieu une fois par mois, le jeudi, de 18h30 à 21h. Et donc, on se retrouve à peu près une quinzaine de personnes dans des lieux complètement différents. On change de lieu tout le temps. Et donc, parmi les filles qui organisent cet atelier, on a des formations d'animation en écriture. Et donc, chacune de nos tours, on anime un atelier sur différents thèmes qu'on choisit ensemble ou dont on a envie de parler.
Je vais en profiter quand même, pardon, pour dire que la bibliothèque est réouverte, je pense, comme dans tout le secteur. Mais les gens doivent choisir leur livre par Internet, ou alors téléphoner à la bibliothécaire qui leur donne des conseils, et on peut récupérer les livres, mais sans rentrer dans la bibliothèque, en passant par la salle des arts qui est à côté. Voilà.
En drive,
oui.
Alors nous, au niveau de l'atelier d'écriture, on n'a jamais vraiment... alors bien sûr qu'on était confinés, mais on a fait un atelier d'écriture sur le confinement, par Internet. Donc les gens pouvaient écrire des petits textes, ou plus ou moins longs, et puis les envoyer sur un lien qui s'appelle le journal du confinement et du déconfinement. Donc à peu près un thème par semaine, mais on a commencé un petit peu tard. Et donc tous ces textes ont été recueillis, et voilà, maintenant on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais bon, il sera sur Internet.
Vous êtes tous les deux engagés dans des associations culturelles. Pour vous, la culture a quelle place dans votre vie et comment vous en êtes venu à vous engager, pour quelles raisons?
Alors, habitant Saint-Pierre-de-Chartreuse, sans être adhérent à cette association, j'allais à tous les spectacles parce que je n'ai jamais été déçu. Donc ça me plaisait énormément. Et j'avais toujours dit que quand l'heure de la retraite sonnerait, j'irais donner un coup de main dans cette association. Et c'est ce que j'ai fait pour mes 60 ans. Et depuis, Et je trouve que c'est important pour un petit village à la montagne de pouvoir faire venir la culture. On n'est pas la seule association, bien sûr, sur Saint-Pierre, mais de faire venir la culture chez nous, plutôt que les gens descendent à Grenoble ou à Voiron ou Chambéry. Je trouve ça très important. Donc c'est le côté sympa qui m'a attiré. J'ai eu de la chance de naître dans un milieu qui était assez aisé. Donc on a eu droit au théâtre, au cinéma. Donc j'ai toujours été gâté. Donc j'ai gardé ça après. J'espère que j'en ai fait profiter à mes enfants. Ils l'ont gardé aussi puisqu'ils sont dans le domaine aussi. Alors en ce qui me concerne, pendant le confinement... Je suis tombé sur une pub d'une BD, et je suis beaucoup au roman policier ou BD. Et je suis tombé sur la pub d'une BD, et le dessin m'a bien plu, qui s'appelle Le Voyage d'Abel. Le Voyage d'Abel, alors pour les pros, le scénario est d'Isabelle Sivan, et les dessins sont de Bruno Duhamel. C'est aux éditions Bambou, avec deux O à la fin. Voilà, et donc j'ai, juste pour le dessin de la couverture, j'ai commandé la BD. Et J'ai été emballé par cette BD pour plein de raisons. Alors, l'histoire en gros, parce que je vous raconterai pas l'histoire, c'est pas intéressant. Non, il faut pas le dire surtout. Abel, donc le héros, c'est un vieux monsieur qui vit seul avec ses deux vaches, son chien et ses brebis dans un petit village du centre de la France. Ses deux frères sont partis et lui, il est toujours resté. Il a jamais osé franchir le pas et pourtant, il a toujours voulu voyager. Donc, il a décidé de partir en Éthiopie. Voilà, après, il faudra lire la BD pour savoir. Mais c'est les dessins. Alors déjà, les dessins, c'est tout en noir et bleu clair, ce qui donne une impression de poésie. Enfin, c'est vraiment... c'est lumineuse. Le dessin de Sivan, là, c'est la même chose. Parce que le héros, c'est un grincheux, mais avec le dessin qu'ils ont fait, ça donne un petit côté humoristique, c'est sympathique. Donc c'est
je rajouterais beaucoup de tendresse.
Voilà, oui, oui. Donc c'est... alors, il y a une dernière phrase à la fin, celle-là, je peux vous la dire, parce qu'elle est très sympa, c'est « La vie est un voyage, pas une destination ». Voilà, c'est la conclusion. Mais après, si vous voulez connaître l'histoire, il faut acheter la BD. Mais vous ne serez pas déçus, c'est vraiment, vraiment, vraiment super.
Elle ne se trouve pas à la bibliothèque ? Elle n'y est pas ?
Non, pour l'instant, non. Et non, parce que notre bibliothèque... parce que c'est une BD qui est très récente. Et donc, là, pour l'instant, elle n'a pas pu aller chercher des livres.
Écoutez, merci beaucoup.
Ben, merci
de
à
rien.
Vous.
Voilà pour le conseil culture du jour. Et donc, à présent, la parole est à Nathalie Thomas pour son compte quotidien. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie,
allô,
est-ce que vous êtes là ?
Oui.
Ah, chouette.
Bonjour.
Vous avez perdu.
Non, non, tout va bien pour moi en tout cas.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Très
et
bien.
Vous ?
Ben nous aussi.
Ça va, merci.
Et comment va Raymond ?
Comment
va Raymond ?
Alors Raymond, il va plutôt bien parce que quand le soleil revient comme ça en Chartreuse, ça, on l'apprécie. Vous voyez, il y a des gens qui ont le soleil tout le temps. À la fin, ils s'en rendent même plus compte. Ben nous, en fait, on peut pas oublier que quand le soleil est là, c'est toujours mieux en fait, parce qu'on sait ce que c'est. Vous voyez la différence.
Oui.
Hein. Donc du coup, voilà. Alors Raymond, c'est un homme, comme je vous l'ai dit hier, hein, on finit par venir lui demander conseil avec sa réputation de sage, de philosophe, de grand penseur. Et Raymond, il a un jeune ami qu'il apprécie bien, on va l'appeler Laurent, hein, comme ça c'est plus facile de raconter l'histoire. Et en fait, Laurent, il a un petit côté mystique, voyez-vous. Et un matin, il arrive tout excité et il dit à Raymond, écoute, ça fait 3 nuits que l'ange vient me visiter. Et ça fait 3 nuits qu'il me répète la même chose. Il me dit que je sous-estime mes capacités spirituelles et que c'est moi qui dois guider les autres, en fait, que j'ai une mission et que je dois les emmener vers la spiritualité. Et ça fait 3 nuits, et cette nuit même, il m'a dit qu'il fallait que j'obéisse, quoi, qu'il n'avait pas l'air très content. Et Raymond l'écoute attentivement avec respect et tolérance et il lui dit, écoute Laurent, moi je serai toi, j'attendrai encore un peu. Alors Laurent lui dit, mais tu veux que j'attende quoi ? Et ben, la prochaine fois que l'ange vient te visiter, tu lui demandes d'aller voir tous les autres et de bien les avertir avant.
Comment avoir la paix ?
Voilà, c'était celle du jour.
Ben, merci Nathalie.
Merci.
Est-ce que
beaucoup,
vous pouvez nous annoncer votre dédicace musicale ?
Alors oui, si je m'en rappelle, bien sûr, je m'en rappelle, oui, c'est Hawkins, Jay Hawkins, et c'est une interprétation avec toutes ces tripes de I Shot the Sheriff, et vraiment, je ne sais pas dans quel état vous êtes pour l'écouter, mais en tout cas, cet homme a vu cette chanson comme j'ai rarement entendu un artiste vivre un texte en musique. Voilà, je voulais partager ça avec vous.
Merci beaucoup.
Merci Nathalie.
Merci à vous. Bonne journée. Track me down.
gonna bring me in guilty for the killing of a devotee, for the life of a devotee. But I say, oh! Wasn't self-defense. I gotta protect myself, you know. I shot the sheriff, but they say it was a capital offense. Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. Every time that I planted a seed, he said, kill it! Before it grows, he said, kill it before it grows. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense, and I'm not lying either. I shot the sheriff. I repeat, I gotta tell you again, it wasn't self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town. All of a sudden, I see that Sheriff John Brown with his pistol trying to shoot me down. So I shot him, I mean I shot him down. But I say, whoa! I got burned out tappy though. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. You guys quit messing with Brother Clinton. Reflection got the better of me, and what it used to be, it must be.
C'est déjà la fin de cette édition spéciale des Convives du Neuf. Donc on remercie Sylvie Raspail qui était avec nous en direct. Merci Élise d'avoir co-animé cette émission avec moi.
Avec plaisir.
Merci à Lucas pour la technique. Et donc si cette émission vous a plu, même si elle vous a déplu, vous pouvez nous le faire savoir.
Et oui, et même si vous avez des informations à faire passer à l'antenne ou si vous souhaitez vous exprimer tout simplement, un numéro 06 45 00 36 45 ou une adresse mail contact@radio-6couleur-6chartreuse.org.
Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission dès ce soir à 18h ou bien en podcast à partir de demain matin.
Continuez à vous protéger, restez positif. Belle fin de journée, presque un petit peu ensoleillée.
Même beaucoup, hein, aujourd'hui.
Oui, comparé au précédent jour, oui. Et à la semaine prochaine. Bye bye. And yo, make friends with China. Watch out for the Northwest Mounted Police. Shoot him. Yo, 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 yo. Give me my double barrel shotgun. Let me blow his brains out of his head. Let me stomp on his great big old fat toe. I shot the sheriff. I lose my breath. I got to run. Police got guns. I can't go fast. They want to kick my knee. Oh, I shot the sheriff. What can I see?